Objectif Startup, l'émission qui décrypte l'univers des startups. Présentée par Bérénice Deville sur Cowork La Radio.
Bonjour à tous, bienvenue sur Cowork La Radio, bienvenue dans Objectif Startup, l'émission des startups. Et aujourd'hui, je reçois Nicolas Mouret, cofondateur et CEO de Greenmetrics. Alors, une entreprise qui permet de mesurer l'empreinte carbone numérique des entreprises.
Tout à fait. Bonjour.
Bonjour.
Donc en fait, Greenmetrics, c'est un outil qui permet de mesurer et de piloter l'empreinte environnementale du numérique de manière automatisée, donc sous une forme de plateforme SaaS sur laquelle on va identifier les différents usages au sein de l'entreprise par les différents collaborateurs. Donc des usages, ça va être de la visio, des emails et toutes les solutions SaaS utilisées au sein de l'entreprise. Et ensuite, toute la partie des équipements qu'on va intégrer à la plateforme avec différents indicateurs pour pouvoir piloter de manière durable et responsable sa politique Green IT.
Oui, parce qu'en fait, le numérique, ça pollue, on ne s'en rend pas forcément compte, on n'y pense pas, on dit qu'il faut faire des économies de papier, il faut faire attention, etc. Mais ça pollue, en fait.
Tout à fait. En fait, ça a un impact aujourd'hui en termes énergétiques, le fait de faire tourner des data centers, mais également dans la production des équipements qui nous permettent d'avoir une activité numérique. Et tout ça cumulé avec le nombre d'utilisateurs fait qu'aujourd'hui, ça a un impact qui est assez important au niveau de la planète. Aujourd'hui, c'est un peu plus ça, l'impact du numérique a dépassé l'aviation civile et bientôt, en termes d'émissions de gaz à effet de serre, et bientôt la partie du transport routier, enfin voiture, de tous les jours.
Alors, Greenmetrics, ça a quel âge ?
Alors, ça a un an, on a créé ça en 2020. Et voilà, donc juin ou juillet 2020, exactement.
D'accord, donc un bon bébé.
Exactement.
Qui sont vos clients ?
C'est principalement des entreprises, on va dire, de grande taille, plutôt des grands comptes, avec une dimension plutôt digitale. La raison est simple, c'est qu'aujourd'hui, l'empreinte du numérique pour les entreprises digitales, c'est quasiment deux tiers de leur empreinte carbone totale. Donc c'est elles qui vont être intéressées par cette solution-là pour, en effet, pouvoir maîtriser et réduire les deux tiers de leur empreinte carbone.
Et alors, comment ça se passe ? Ils viennent c'est quoi ? Est-ce qu'ils ont vraiment envie de baisser leur empreinte carbone ? Est-ce que c'est un peu du greenwashing ? Enfin, c'est pour se donner bonne image ? Est-ce que,
Alors aujourd'hui, c'est une thématique quand même, la pollution numérique, qui existe depuis toujours, parce que depuis qu'on utilise l'ordinateur, il y a un impact forcément. Mais avec la transition digitale, notamment, ça s'est beaucoup accéléré, cette thématique, durant le confinement. Et voilà, donc il y a des entreprises forcément qui peuvent aussi avoir des politiques peut-être trop greenwashing, mais la majorité aujourd'hui savent qu'elles ont un impact. On est tous dans une démarche de réduire notre empreinte sur l'environnement. Alors, des entreprises qui étaient précurseurs et qui déjà le faisaient en amont, mais aujourd'hui c'est quelque chose qui est devenu quasi systématique. D'intégrer le numérique responsable dans ses politiques RSE et de les mesurer. Donc l'outil Greenmetrics, c'est tout d'abord pour pouvoir mesurer et puis ensuite de pouvoir mettre en place une politique pour réduire l'empreinte.
Il faut qu'elles jouent le jeu, en fait. Il faut que toutes les entreprises jouent le jeu.
Tout à fait. Alors aujourd'hui, on l'a vu, il y a eu une obligation de faire des bilans carbone pour des entreprises à partir d'une certaine taille. Mmh. Et on a des objectifs au niveau des gouvernements, en 2030 et en 2050, de réduire l'émission de gaz à effet de serre. Et donc forcément, il faut que tous les acteurs économiques jouent le jeu, dont les entreprises.
Et alors, qu'est-ce que vous leur proposez ? C'est un abonnement ?
Oui, tout à fait. C'est un abonnement, en fait, par utilisateur et en fonction du nombre d'utilisateurs. Parce qu'on va onboarder chaque salarié. Ils auront un espace dédié où chaque collaborateur aura ses propres métriques par rapport à ses usages et les équipements qu'il utilise. Ensuite, il aura également les métriques de leur entreprise et même de leur service, un service commercial, service administratif, en fonction de celui auquel ils appartiennent. Et ensuite, ils auront également les leviers sur lesquels appuyer pour pouvoir réduire leur empreinte et un suivi. Il y aura tout à l'intérieur de cet espace un peu de gamification en fonction des leviers, entre guillemets, appliqués et actionnés. Et puis, s'ils ont réduit ou augmenté leur empreinte.
Donc en fait, c'est non seulement un bilan, mais après un accompagnement vers...
On fait la recommandation, on suit la recommandation, mais on ne va pas délivrer la recommandation. C'est-à-dire que c'est pas nous qui allons vous vendre, par exemple, du matériel reconditionné si le levier, c'est de remplacer son matériel par du reconditionné, par exemple.
Donc ça, c'est un des leviers, par exemple. Il y a quoi d'autre comme levier possible ?
Alors sur l'équipement, vous avez prolongé la durée de vie, vous avez également réparé votre équipement. Vous allez avoir, après on va pouvoir avoir on a un référentiel avec où on catégorise les différentes typologies d'équipements avec celles qui ont un impact, notamment au niveau de la phase de fabrication moins forte, ou un impact en tout cas moins lourd. Après, vous avez sur les usages également, en termes de visio, en termes de SaaS utilisé, en termes également de data center. Donc, on va prendre vraiment toute cette typologie-là. Alors après, il y a des leviers sur lesquels les collaborateurs ont la main dans la vie de tous les jours. Et puis après, il y a celles qui appartiennent au manager ou à la direction.
D'accord. Et alors, dans la vie de tous les jours, justement, le salarié, est-ce que ça lui prend du temps en plus ou pas ?
Non, aujourd'hui, on a voulu faire quelque chose de pas... on ne voulait pas être, comment dire, que ça soit considéré comme un peu comme du flicage pour l'entreprise, et surtout que ça soit comme une contrainte de dire ah ben, je ne peux plus envoyer un mail parce qu'un mail va coûter ou va peser tant. L'idée, ce n'est pas aller là-dessus, c'est vraiment de sensibiliser les collaborateurs et qu'ils commencent à rentrer dans cette thématique-là. Aujourd'hui, on l'a fait, et moi je l'ai vu par mes précédentes activités, sur le recyclage, c'était un peu le même cas il y a quelques années. Et puis aujourd'hui, ne pas mettre en place du recyclage dans les bureaux, ça choque un petit peu l'ensemble des collaborateurs. Mettre le gobelet avec le papier, ça choque aussi. Et c'est un peu cette thématique-là, parce qu'on sait les impacts que ça a. Il y a toute une communication après qui doit se faire en interne. Et donc, c'est cette solution-là qu'on souhaite vraiment les sensibiliser pour qu'ils s'engagent également dans cette démarche.
Et justement, quand vous les sensibilisez, enfin les employés, les salariés, les collaborateurs de vos clients, au premier contact, comment...
Alors aujourd'hui, au sein de la plateforme, on va mettre des conversions en fait, par rapport à un impact lié à un usage. On va mettre l'équivalent, je ne sais pas, ça va être en déplacement de voiture, l'équivalent en trajet, aller-retour, Paris-New York par exemple. Enfin, il y a tout un nombre d'exemples comme ça.
Pour vraiment prendre conscience.
Exactement, pour matérialiser avec des actions ou des produits du quotidien, où là ça va beaucoup plus parler, parce que la difficulté c'est qu'on essaye de rendre visible l'invisible. Ouais. Aujourd'hui le numérique, bon, c'est les ordinateurs, mais je veux dire, on ne sait pas tout ce qu'il y a derrière quand on est en train de faire une visio, d'envoyer des mails. Et l'idée, c'est, je pense que le nerf, en tout cas le point central, c'est d'arriver à rendre visible l'invisible. Et c'est comme ça qu'ils vont en prendre conscience.
Ouais, c'est vrai que c'est vraiment compliqué à s'imaginer, en fait, tout ce qu'il y a derrière. Aujourd'hui, c'est combien de clients, vous êtes en moyenne, combien de clients ?
Alors aujourd'hui, on est à peu près une quinzaine de clients. On lance la phase, on était en phase de pré-lancement. Ouais. Et là, aujourd'hui, on a à peu près une cinquantaine de clients dans le pipe commercial. Avec une mise en place à partir de septembre, entre septembre et octobre.
D'accord. Combien de collaborateurs ?
Aujourd'hui, on est 8.
8 ?
8 et on devrait arriver à peu près à 15 personnes d'ici la fin de l'année.
Basé à Paris.
Alors, bien entendu, avec le télétravail et puis la diversité également des postes. Il y a pas mal de postes et de collaborateurs qui sont en province et on fonctionne comme ça. Donc, c'est à peu près quasiment 50%.
D'accord. Vous en parliez il y a quelques instants, donc votre vie d'avant, c'était plutôt dans le recyclage.
Tout à fait.
Vous étiez gérant d'une autre entreprise.
Oui, j'avais cofondé une entreprise cofondé une entreprise de collecte et traitement de déchets. Donc là, on était vraiment sur les déchets physiques, où on était sur la région Île-de-France, et puis on collectait les déchets pour les entreprises, et ensuite on les valorisait avec toute une partie de revente de ces matières premières secondaires. Et ça, j'avais créé cette entreprise en 2009.
D'accord. Et qu'est-ce qui s'est passé, en fait ? Vous aviez envie
alors j'avais fait... C'est une entreprise... Enfin, c'est un secteur d'activité industrielle. Et puis, pour moi, j'avais fait un petit peu le tour. J'avais envie d'avoir une activité plutôt digitale aussi. Et puis, cette thématique de la pollution numérique est venue lors de conversations avec des directeurs RSE. Et puis, ça a un peu mûri dans ma tête. Et l'idée était de créer... une solution, ça, c'est comme ça qu'on arrive à Agrimetrix, mais c'est une belle activité où il y a beaucoup de gros acteurs notamment.
Bien sûr.
Et je ne voyais pas ce que je pouvais apporter dans les prochaines années sur cette activité-là, où ça demande également énormément d'investissement au quotidien, et puis il y a une réglementation qui est très très forte, et puis il y a des beaux groupes également en place. Donc j'avais fait un peu le tour après 11 ans de boîte.
Donc, vous l'avez revendu à Paprec.
Je l'ai revendu tout à fait au groupe Paprec, qui est un des leaders français du recyclage, également présent au niveau européen.
Très bien. Et justement, là, vous disiez, donc, vous aviez un peu fait le tour. Le numérique vous attirait. C'est pourquoi ça a toujours été le cas après, c'est vrai que c'est l'avenir. Hein, le bas carbone numérique, c'est l'avenir de la planète aussi. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête ?
Écoutez, j'avais envie de... le côté digital, le côté, dire, télétravail ou dématérialisation également, c'est quelque chose qui m'attirait de par des sensibilités personnelles et puis même professionnelles, le fait d'avoir digitalisé aussi également pas mal de process chez Privacia, donc mon ancienne boîte. Et puis cette thématique qui devenait de plus en plus forte, avec une croissance qui est de plus de 50% sur les impacts environnementaux du numérique dans les prochaines années, je me suis dit qu'il y avait, quelque chose, entre guillemets, à apporter. Et ce que je me disais dans la tête, c'était qu'aujourd'hui, le numérique, ça va devenir un petit peu... c'est la nouvelle révolution industrielle. Et l'idée, c'est d'apporter, dès le départ, un outil qui puisse permettre d'anticiper, de rationaliser. Encore une fois, c'est pas de dire aujourd'hui que le numérique n'est pas bon, mais c'est à consommer, entre guillemets, pas dire avec modération, mais il faut le rationaliser et pas, on va dire, baisser la tête et foncer tout droit et se réveiller dans 20 ans en se disant, bon, c'est comme avec le charbon ou avec le pétrole, et on se dit, non, on est allé trop loin, on est très dépendant. Donc voilà, c'était un peu l'idée. Et puis j'ai rencontré des bonnes personnes et le projet a vu le jour.
D'accord. Comment ça s'est fait, justement, la rencontre, le projet ?
Alors, j'avais publié un article sur mon compte LinkedIn sur la pollution numérique il y a quasiment 2 ans. Et j'ai quelqu'un de mon entourage qui est data scientist, qui est maintenant cofondateur de Green Metrics, qui m'a appelé, qui m'a dit « je trouve ça hyper intéressant, c'est l'avenir ». Donc lui, en effet, de par son métier, il connaissait bien la data. Et puis ensuite, on a rencontré Baptiste, qui est lui notre CTO. Et puis on a commencé à bosser le sujet et puis ça a vu le jour au fur et à mesure de cette façon-là.
Donc tout est parti de LinkedIn au final.
Exactement.
Comme quoi on peut faire des bonnes rencontres sur LinkedIn.
Exactement. Et tout est parti même d'une agence qui m'accompagnait sur différents sujets d'articles et qui j'ai proposé cette thématique-là et puis on a rédigé un article de cette façon.
D'accord. Est-ce que vous, chez vous, vous faites attention au numérique, à pas trop envoyer
chez
de mails ?
Chez Green Metrics ?
Et même chez vous, personnellement.
Par défaut, sur la partie, en tout cas des équipements, en effet, l'idée, c'est de ne pas surconsommer. Ouais. On est toujours dépendant un petit peu de la robustesse ou la durabilité des équipements qu'on achète. Mais chez nous, oui, on a été le premier un peu bêta-testeur. Où on s'est testé nous-mêmes en fonction de voir les éléments qui remontaient et puis surtout d'alimenter notre référentiel. Donc oui, complètement, on le fait et on continue à le faire.
Vous parlez beaucoup du matériel, ça dépend du matériel. En fait, on sait qu'il y a quand on achète quelque chose, forcément, il y a la consommation. Ça joue vraiment, c'est le premier levier pour baisser sa consommation.
Oui, aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que la pollution numérique, 25% est liée aux usages. Et 75% à peu près, plus ou moins 10%, et 75% sont dus aux équipements. Et dans l'équipement, donc il y a tout le cycle de vie de l'équipement, mais la grosse part de la pollution est liée à la phase de fabrication de ces équipements-là. Donc en fait, plus vous allez prolonger la durée de vie de l'équipement que vous avez acheté, vous allez éviter en fait la fabrication entre guillemets d'un nouveau, participer à la fabrication d'un nouveau, et donc de la plus forte... du plus fort poids en fait de pollution qui est sa phase de fabrication. Donc en effet, c'est un des éléments essentiels. Après, on a la partie usage qui, elle aussi, grossit et grossit de jour en jour parce qu'on est dans un monde où on a beaucoup de data et après, il faut la stocker. Donc il y a toutes ces informations-là. Mais en effet, l'équipement joue un rôle central.
Est-ce qu'un jour, vous imaginez que Green Metrics sera pour les particuliers ?
Pourquoi pas ? Après, je pense qu'il y a quand même encore un peu de travail à faire
sur la sensibilisation.
Exactement. Ouais. Mais ça y viendra. Aujourd'hui, les opérateurs télécoms vont devoir, à partir du 1er janvier 2022, de mémoire, si je ne me trompe pas, devoir indiquer sur votre facture téléphone l'équivalent en CO2 lié à votre consommation. Ouais. Donc, c'est déjà une première étape. Mais on voit vraiment que le monde migre vers ce numérique responsable. Et de la même façon, on va avoir pas mal de... des indicateurs de durabilité, réparabilité sur les équipements. Donc ça va dans ce sens-là. Sur les consommateurs, ça prendra, je pense, un tout petit peu plus de temps, mais peut-être que les opérateurs le feront pour nous dans un premier temps.
Concernant votre parcours, alors il y a eu votre ancienne entreprise en 2009 que vous aviez créée. Avant ça,
en termes d'études, alors j'ai fait des études d'économie et gestion. Je suis parti à Montréal pendant 2 ans. Où j'ai fini tout mon cursus économie-finance. Et ensuite, c'est là-bas où j'ai découvert l'activité de destruction de documents confidentiels. D'accord. Et en fait, je suis rentré à Paris et j'ai créé donc Privacia, tout de suite après mes études. Donc j'avais à l'époque 24 ans. Et voilà, et j'ai commencé comme ça. Et puis 11 ans après, ben, je me retrouve ici.
Et devenir entrepreneur, ça a toujours été quelque chose pour vous de...
C'était, on va dire, naturel. Et je savais depuis que j'avais à peu près 15-16 ans que je voulais monter une boîte, je ne savais pas dans quoi. Je ne me voyais pas, comme plein de copains, vouloir, entre guillemets, avoir un boulot, entre guillemets, tout fait. Je n'avais pas d'ambition, on va dire, d'être avocat, docteur ou autre. Mais j'avais envie de créer quelque chose. Je ne savais pas. Et puis, cette opportunité, en tout cas, quand je suis tombé sur un camion de destruction à Montréal, je me suis dit, tiens, c'est sympa. Il y a une touche green parce que les documents étaient donc recyclés. Et puis, ça a commencé comme ça.
Et vous étiez entouré d'entrepreneurs ou pas du tout ?
Non. Alors, si je dis les fonctions de mes parents, je pense que c'est tout sauf entrepreneur. Mon père est ingénieur en aérospatial.
D'accord.
Et ma mère travaille en tant qu'assistante de direction.
D'accord.
Donc, rien à voir avec tout ça. Mais j'avais cette fibre entrepreneur qui est difficile à expliquer, mais en tout cas que j'avais en moi depuis le début.
Et à aucun moment, vous avez eu peur, justement, parce que c'est le métier, quand on crée ça, son entreprise, c'est beaucoup c'est des hauts, des bas, c'est les montagnes russes, un petit peu.
Complètement. Si je mentirais si j'avais dit que j'avais pas eu peur. J'ai eu peur dès le premier jour, et même le fait de pouvoir aller trouver les nouveaux clients, enfin les premiers clients. Quand j'ai commencé, j'avais acheté un camion en fait de destruction.
Ça vous a marqué ce camion de destruction ?
Ouais. Ouais, ça a été le premier, mais surtout que je le voyais, je l'ai vu pendant des mois et des mois sous mes yeux sans avoir de client. Donc c'est dans ces moments-là où on se dit on s'est peut-être trompé. Ouais. Et puis au final on avance et puis c'est ce qui nous fait avancer clairement de se mettre des objectifs. Et puis quand on est jeune, il faut être aussi un peu insouciant à certains moments. Il y a des erreurs que j'ai faites ou du moins que j'avais pas anticipées, que je ne referai pas. Mais c'est comme ça qu'on apprend. Et j'ai des choses qui me servent aujourd'hui. J'apprends des nouvelles choses. Du management, entre guillemets, à distance, ce n'est pas des choses qu'on avait l'habitude de faire.
Oui, c'est vrai.
Donc chaque jour, on apprend. Mais c'est ce qui me plaît aussi dans l'entrepreneuriat.
Vous vous formez pour ça, pour manager ?
Alors, je me suis formé, j'ai fait...
Pour le management à distance ?
Alors, il y a 5-6 ans, moi, j'avais racheté une des entreprises dans le recyclage. Et pour cette acquisition-là, j'avais fait une formation... parce qu'on triplait d'effectifs. Mmh. Après, sur le management à distance, pas encore, mais ça se passe plutôt bien. J'appréhendais un petit peu ce management-là parce que j'avais un management, moi, très opérationnel et du quotidien avec des chauffeurs, des commerciaux. Là, c'est complètement différent. C'est des devs, c'est des data scientists, c'est des UX designers. Donc, c'est complètement différent, mais ça se fait très bien.
Ça se fait bien, oui.
Ouais.
Ouais. Vous parliez de l'insouciance de la jeunesse. Est-ce que l'insouciance, on en a besoin quand on veut créer une entreprise ?
Je pense que les deux fonctionnent. Mais il y a certains, en tout cas, moi, dans ce que j'ai pu voir par le passé, par mon expérience, il faut un petit peu de folie. En tout cas, j'ai envie de dire un peu d'inconscience, mais de manière marginale. Après, c'est beaucoup à l'instinct. Aussi. En tout cas, c'est ma manière un petit peu de fonctionner. Après, il y a des entrepreneurs qui sont, on va dire, beaucoup plus cartésiens, qui vont anticiper les risques et ça fonctionne très bien aussi. Mais moi, en tout cas, je l'ai vécu comme une prise de risque et ça, tout le monde pourra le dire en tant qu'entrepreneur, avec beaucoup d'instinct et un peu d'insouciance parce qu'on oublie des choses qui sont aujourd'hui pour nous essentielles dans une analyse qui ne l'étaient pas quand j'avais 24 ans.
Lesquelles, par exemple ?
Se dire oui, non, mais ça, j'ai pas de problème, je vais trouver un client, je vais y arriver, d'être confiant à ce niveau-là, mais ne pas avoir, par exemple, notamment au niveau du pricing, je me rappelle, j'avais fait un BP, et le BP, bon, ça, c'est, on n'arrive toujours pas à le tenir, mais en fait, dans l'analyse de marché, je suis passé un peu à côté de la plaque, mais
d'accord.
Au final, j'ai fait, entre guillemets, 4 fois plus de clients que ce que j'avais prévu la première année, donc je me suis retrouvé complètement dans mes chiffres. C'était quelque chose qui m'avait un peu marqué. Mais bon, voilà, après, c'est pas des choses qui... Et puis, on rebondit, et on essaie
de... Bien sûr, on apprend, en fait.
Complètement. Complètement.
C'est la meilleure des écoles, au final.
Exactement.
D'accord. Justement, là, du coup, vos clients avec Greenmetrics, comment ça s'est passé, les premiers clients
Alors, ça a été plutôt des entreprises et du réseau.
Oui, c'est ce que j'allais dire. Vous aviez un réseau déjà
exactement,
dans le recyclage.
Et puis, la thématique commence à prendre. Donc, c'est vrai qu'il y avait un intérêt. Donc, c'était vraiment... On a pris un peu de tout type d'entreprise, digitale, moins digitale. Mmh. Pour aussi créer notre référentiel en interne. Mais aujourd'hui, on voit clairement qu'il y a une forte demande. On est sollicité par des grands groupes, par toutes les entreprises qui ont une volonté en tout cas de réduire leur empreinte carbone de manière générale et dont le numérique fait partie ou représente une part assez importante.
Est-ce que vous délivrez une sorte de certificat, de label ?
On délivre un bilan carbone du numérique au sein de la plateforme, donc ça c'est de manière automatisée. On a un produit qui va sortir plutôt sur début 2022, qui lui sur la partie d'un rating environnemental de site internet par rapport à l'activité, par rapport notamment au nombre d'utilisateurs, au nombre de visiteurs sur un site et tout ce que ça peut demander en termes d'interconnexion entre les sites et un peu la même chose qu'en interne d'une entreprise. Et pour ces deux solutions, on a, oui, en effet, un espèce de badge en interne, comme un label Green Metrics qu'on fournit pour, en effet, que les clients puissent également communiquer là-dessus et s'améliorer.
D'accord. Oui, donc en fait, ils mettront sur leur site le label.
Tout à fait, oui.
D'accord. C'est quelque chose, en même temps, vous êtes un peu au bon endroit, au bon moment.
Je pense.
Ouais. Est-ce que c'est ça aussi le métier d'entrepreneur, de patron ?
J'allais y venir. L'entrepreneur, en tout cas, le succès, bon, c'est du travail, faut pas le cacher, mais c'est aussi beaucoup de timing. Je veux dire, vous pouvez avoir la meilleure idée du monde, arriver 2 ans avant le time to market, et puis au final, vous passez à côté. Ouais. Et ça, j'ai envie de vous dire, ça ne s'apprend pas.
Et ça, c'est quoi ? C'est l'instinct ou c'est la chance ? Ou les deux ?
Je pense que c'est les deux. Parce que vous pouvez anticiper un petit peu un marché sans en avoir la certitude par rapport à des prémices que vous voyez à droite à gauche. Mais avoir la certitude que ça va arriver dans 2 ans ou à un délai que vous avez fixé, c'est compliqué, c'est même voire impossible. Et puis après, oui, en effet, c'est de la chance. Et puis c'est ce qui fait partie, entre guillemets, de la vie où vous, à certains moments, vous avez le timing parfait. Et puis vous ne savez pas pourquoi votre voisin, il ne l'a pas eu. Mais c'est comme ça.
Est-ce que le fait de voyager, ça développe son instinct ?
Je pense qu'aujourd'hui, c'est essentiel.
De l'autre côté de l'Atlantique.
On le voit d'ailleurs. Moi, j'ai 37 ans. Les jeunes d'aujourd'hui, de 25, voyagent énormément. Et en tout cas, voyagent plus que moi, ma génération et peut-être la génération d'avant. Et clairement, c'est essentiel. On voit des choses, on s'imprègne. On reste 2, 3, 4 ans à l'étranger, on revient ou on ne revient pas. Mais en effet, il y a quand même cet enrichissement. D'aller à l'étranger et de voir comment les autres populations réfléchissent, des offres qu'il peut y avoir, qu'il ne peut pas y avoir en France. On le voit, il y a des réussites qui existent dans d'autres pays, puis qui existent aussi en France parce qu'on s'est inspiré, parce qu'on a ramené et vice-versa. Donc non, c'est essentiel de voyager.
Et selon vous, quels sont les pays qui ont un temps d'avance sur nous au niveau du climat
Du climat, alors il y a les pays nordiques qui sont quand même assez avancés, il y a des belles solutions qui existent.
Vous regardez ce qui se passe dans ces pays-là ?
Ouais, alors nous on a créé un comité scientifique dont il y a un des membres qui est franco-danois et qui a monté une belle boîte sur le climat. Donc oui, bien sûr, on se tient au courant et puis aujourd'hui il y a une vraie ébullition autour de tout ce qui est bilan carbone, climat, etc. Donc on essaye de se tenir, mais il y a beaucoup, beaucoup de solutions.
Donc il y a les pays nordiques, il y en a d'autres
Vous avez toujours les États-Unis aussi.
Pas toujours ça, mais...
Non, mais il y a toujours en tout cas un vivier d'entrepreneurs et aussi là-dessus. Et puis voilà, après en France, on est quand même assez actifs. Hein. Il y a beaucoup de solutions, en tout cas, qui se créent sur la partie carbone, climat... énergie. C'est plutôt en France, on est quand même on a un très très bon réseau d'entrepreneurs. On le voit avec la French Tech, avec tout ce qu'il y a aujourd'hui. Et clairement, c'est quelque chose qui a pris beaucoup d'importance et on est de plus en plus regardé de l'étranger.
Est-ce que vous pensez, vous attendez, vous regardez les présidentielles, est-ce que vous pensez que ça pourra influencer ou pas votre secteur ?
Je pense que ça a déjà quand même beaucoup avancé depuis les 18 derniers mois, voire les 12 derniers mois. Entre eux, il y a eu la loi sur climat et résilience, il y a eu la loi Rennes également. Ça ne va pas s'arrêter.
N'importe quel parti, au final.
Non, je pense que peu importe le nouveau président ou la nouvelle présidente, mais il n'y a pas de... Peut-être que ça va ralentir un petit peu avant ou des prises de décision. Mais aujourd'hui, on est lancé. L'Union européenne est en train de prendre le relais également. On l'a vu, là, ils sont en train d'élargir tout ce qui est marché carbone. Donc, c'est vraiment tous les acteurs économiques vont devoir rentrer, entre guillemets, sur et prendre, monter dans le train. Donc non, je pense pas. Ça changera pas grand-chose.
Ouais, tout le monde va jouer le jeu au final.
Il n'y a pas le choix, de toute façon.
C'est sûr. Comment vous voyez l'avenir alors de Green Matrix ?
Eh ben écoutez, l'idée c'est d'avoir un bon développement là sur la prochaine année, rapidement aller à l'international. Donc on travaille pas mal avec des partenaires pour essayer d'accélérer à horizon, on va dire entre 18 et 24 mois à l'international.
Vous visez quel pays ?
Alors européen et puis rapidement les États-Unis.
Oui.
Ensuite, on va également développer d'autres verticales parce qu'aujourd'hui on est sur le numérique. L'idée, c'est que à court moyen terme, on puisse appliquer d'autres verticales de mesure. Quand je dis verticale, c'est vraiment d'aller dans une analyse fine des usages ou des causes des sources de consommation, avec derrière des recommandations. Il y a différents secteurs, notamment la mobilité et puis l'énergie des bâtiments qui nous intéressent.
D'accord.
Donc c'est des choses qu'on va développer également dans les prochaines années pour devenir une solution globale.
Oui, complet, le pack pour le transport. D'accord.
Complètement.
Et donc ça, aux États-Unis par exemple, j'imagine que vous avez fait un peu de veille, etc. Il n'y a personne qui propose, vous n'avez pas de concurrent
Aujourd'hui, il y a des solutions qui existent, notamment sur des verticales vraiment précises, que ce soit sur le bâtiment, mais en France également, hein, sur le bâtiment, sur la mobilité. Nous, ça n'a pas été notre volonté de rentrer, en tout cas, sur ce marché du bilan carbone, mais plutôt de rentrer sur le numérique, parce que ça nécessitait, premièrement, beaucoup de développement en termes de tech. Ouais. Ça a été, nous, un peu plus de 12 mois de recherche et développement. C'était également le poste qui était en forte croissance parce que de par la transition digitale des entreprises, le télétravail.
Le télétravail, oui, ça a joué pendant le confinement aussi.
Et donc forcément, c'est ce poste-là qui est en très très forte croissance par rapport à de la mobilité, par rapport à du bâtiment. Et donc on veut rentrer par ce marché-là, apporter une vraie différenciation, une vraie valeur ajoutée. Et puis derrière, pouvoir également répondre à des demandes de clients qui d'ores et déjà nous posent certaines questions, de pouvoir rajouter des services et intégrer, agréger des données pour que Green Matrix soit le centre.
Le full pack.
Exactement, et le tableau de bord de l'ensemble de leur Matrix Green.
Là, vous parliez du télétravail, du coup, vous pensez que ça va s'inscrire dans la durée ?
Oui.
De toutes les entreprises ? Parce qu'on voit quand même certaines qui font un pas en arrière, qui s'aperçoivent que bon, pour la cohésion d'équipe, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux.
Alors, il y a deux choses. Déjà, je pense que mon ancienne activité de recyclage, compliqué de faire du télétravail. Peut-être un petit peu pour des postes de commerciaux, un peu d'admin. Le chauffeur, vous n'allez pas le faire travailler de chez lui.
Oui, c'est sûr.
Donc, il y a des activités sur lesquelles ça ne marchera pas. Peut-être que le télétravail va prendre un petit peu plus de place.
Je parle pour vos clients, par exemple.
Ah, oui, clairement. Mais aujourd'hui, on a développé la solution pour que même en télétravail, on puisse mesurer ces impacts-là. Aujourd'hui, je pense qu'en effet, on va être peut-être sur du... peut-être doubler entre guillemets, la proportion de télétravail par rapport à ce qu'il y avait avant. Aujourd'hui, il y a des entreprises qui fonctionnent très très bien en télétravail. Maintenant, c'est une volonté, c'est un management. Peut-être qu'il y a des entreprises aussi qui sont moins à l'aise dans ce management-là. Mais en tout cas, les salariés auront toujours besoin d'avoir une vie sociale en venant au travail.
Oui.
Je pense que le bureau deviendra peut-être plus un endroit d'échange,
de rencontre,
et moins le boulot, on arrive à 9h, on part à 18h tous les jours, etc. Ça va être un peu différent, mais je pense que ça va prendre plus de place.
D'accord. Vous, le télétravail au sein de Green Matrix ?
C'est pas mal. Aujourd'hui, on est, en tout cas, je vous dis, on est à peu près 50% des effectifs qui travaillent de chez eux. Soit parce qu'il y a
100% chez eux ?
100% chez eux. Soit parce qu'il y a une situation géographique qui fait qu'ils ne peuvent pas venir au bureau.
Vous avez des collaborateurs dans quelle ville, par exemple ?
À Nantes. Nantes, Vannes. On a des personnes après aux alentours de Paris, à 1h30, 2h de Paris. Mais ça, par contre, là, il y a une volonté de notre part de faire des événements de manière beaucoup plus, de manière plus régulière au bureau pour créer aussi une cohésion. Mais je pense que ça restera comme ça et en tout cas, on arrivera à se développer comme ça.
Ouais, c'est votre business model en fait.
Ouais, et puis j'ai vu moi des amis entrepreneurs. Qui ont plus d'une centaine ou 150 personnes, qui aujourd'hui, c'est tout le monde chez eux, ils viennent, je crois que s'ils avaient fixé 2 ou 3 jours par mois au bureau. pas plus.
Ouais.
Et tout le monde est content, tout le monde est heureux. Et par contre, ils travaillent sur de garder cette cohésion, de créer des events pour mobiliser les collaborateurs.
Et les events, c'est en ligne ou
il y a de tout. Ils font en ligne. Ils réfléchissent à faire aussi du physique. Et voilà. Mais c'est vraiment une nouvelle façon de manager et de gérer une boîte.
Ouais. Très intéressante aussi.
Oui, tout à fait. Non, il y a beaucoup de choses à apprendre. C'est vraiment différent, mais je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait pas.
Oui. Après, il faut que ce soit bien organisé. Je pense que c'est la clé.
Bien organisé. Et puis après, je pense qu'il faut un bon équilibre. C'est toujours ça. Trop, ouais. C'est peut-être pas bon parce que vous n'arriverez pas à garder également vos collaborateurs et à créer aussi une identité d'entreprise et que les collaborateurs vraiment se sentent chez eux.
Ce sentiment d'appartenance.
Oui, qui est très important pour la réussite de l'entreprise.
Bien sûr. Merci beaucoup, Nicolas Mouret. Je rappelle que vous êtes cofondateur et CEO de Green Metrics. Merci pour ce numéro. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Objectif Startup.
Objectif Startup, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Cowork La Radio et sur toutes les plateformes de streaming.